Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose deux textes. Le premier, nous l'avons choisi dans le psaume 45. C'est tout simplement une pensée qui va nous introduire dans notre méditation. Alors, le psaume 45, le verset 2. Psaume 45, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Des paroles pleines de grâce. Vous voulez en entendre ce matin? J'espère qu'elles seront telles. Parce que la parole de Dieu, c'est ça. Pas autre chose. Avec différentes déclinaisons, naturellement, mais ce sont des paroles de grâce. C'est pas des paroles de condamnation. C'est pas la parole de rigueur, bien que quelquefois, Dieu nous demande de prendre en considération, nos vies, nos voies. Mais ça reste toujours la grâce. Parole de charme, parole de grâce. Et puis, il est dit, tu es le plus beau des fils de l'homme, en parlant naturellement de celui qui, est l'objet de notre rendez-vous ce matin. Tu es le plus beau des fils de l'homme, et ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. Alors, on va prendre en considération toutes ces données, ces éléments qui nous sont donnés dans le livre des psaumes, et peut-être un texte que vous avez lu et relu et qui est particulièrement intéressant, que j'ai eu sur le cœur pendant mes vacances, figurez-vous. Ce qui veut dire, c'est que vous m'envoyez plus souvent en vacances et je vais vous apporter des paroles de charme. Enfin, je dis ça au passage. Mais toujours est-il que j'étais interpellé par ce texte dans le livre d'Ézéchiel. Alors peut-être que ça va vous donner une situation biblique ou de situation la visuelle du texte dans ce livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 33 et au verset 30. Et nous allons voir et retrouver finalement quelques éléments de ce que nous avons lu précédemment. Cet habile écrivain, cet homme qui parle avec des paroles de charme, paroles de grâce. Et voilà ce que nous avons devant les yeux et que nous partageons tout à nouveau. 33, verset 30. « Et toi, fils de l'homme, c'est Dieu qui s'adresse à Ézéchiel, prophète, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi auprès des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère. » Et quel merveilleux encouragement. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles. Mais ils ne les mettent pas en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Vous connaissez ce passage ? Vous l'avez lu dans tout le contexte d'Ézéchiel. Il faut dire que Ézéchiel n'est pas forcément très entraînant quand le contexte du livre. Et pourtant, c'est un livre de révélation extraordinaire, le livre d'Ézéchiel. Mais il y a des choses parfois qui sont un petit peu plus compliquées. Vous avez remarqué qu'il y a quelque chose dans ce deuxième texte, il y a un verbe. Et je le rappelle, les verbes dans la langue française, je pense peut-être dans d'autres langages, c'est l'action. Un verbe d'action, écouter. Donc j'agis, j'écoute, tout simplement. Et cela est répété, le verbe est répété 3 fois dans notre petit texte que nous avons lu dans Ézéchiel. Et écoutez, je voudrais vous le rappeler ce matin parce que vous ne l'avez pas oublié puisque vous êtes venu. Mais c'est le principal but de nos réunions. Alors bien sûr, il y a la communion fraternelle, il y a le plaisir de se retrouver, de se saluer dans cette disposition que Dieu a mis dans les cœurs de chacun et des uns et des autres. Ce n'est pas seulement de pouvoir exprimer notre louange, c'est important. Mais c'est aussi d'être comme vous l'êtes, assis, et vous êtes venu pour écouter. Imaginez-vous un culte où il n'y aurait pas de prédication. Bon, c'est quand même assez rare, hein, à moins que le prédicateur ne puisse pas parler. Ça peut arriver, hein, c'est vrai. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est vraiment l'objet de notre rencontre. Nous sommes là, nous sommes venus, et nous l'avons entendu dans les louanges, les prières de louanges. Seigneur, nous sommes là pour écouter ta parole. Vous avez même prié pour moi, certains. C'est bien, je vous remercie. Hein? Et c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, ce verbe écouter revient extrêmement souvent dans l'histoire des Écritures. Écoutez, Jésus va en parler. D'ailleurs, il dira que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute, entende ce que l'Esprit, ça c'est le livre de l'Apocalypse, c'est bien d'autres choses. Donc, ça, c'est ce pourquoi nous sommes là ce matin. Nous sommes venus, entre autres, sans évincer le reste, mais nous sommes venus pour écouter. Et pas écouter un homme, mais écouter la parole de Dieu. Parce que quand on va faire le détail de cet engouement des Juifs, hein, qui étaient en exil à l'époque, on en reparlera, ils venaient vers Ézéchiel, parce qu'il était naturellement connu pour être le prophète de Dieu, mais il nous est dit qu'il venait écouter la parole de Dieu. Et c'est important. Et il serait dommage que quand même, et on va naturellement développer le sujet, il serait quand même dommage que l'on vienne pour un pasteur. Eh oui. Parce que le but, et normalement les prérogatives d'un prédicateur, c'est tout simplement de parler pour Dieu. Enfin, de parler avec l'inspiration de l'Esprit de Dieu. De parler de sa parole qui est la parole de Dieu. Et non pas de ce que un homme pourrait raconter, peut-être des histoires très intéressantes, peut-être avec une grande érudition, c'est possible. Mais c'est pas ça ce qui est le but. Le but n'est pas là. Écouter la parole de Dieu. Alors écouter a donné toutes sortes de mots. Auditorium, oratoire. Hein, on pourrait peut-être dire que nos salles, ce sont des oratoires, en quelque sorte. Parce que c'est le but principal. Il y a le mot orateur qui est dedans. Quelqu'un qui parle, qui ne parle pas pour rien dire naturellement. Et puis vous êtes, vous, les auditeurs, tout simplement. Et vous faites marcher un des 5 sens, c'est-à-dire l'ouïe. Voilà. Tout le monde est venu avec ses oreilles ce matin. Hein. On les oublie pas parce que finalement, on peut pas s'en séparer. Mais par contre, on peut fermer ses oreilles. Ou on peut tout simplement, faire en sorte que même avec nos oreilles, ce qui nous permet d'entendre, de ne pas vouloir entendre. Parce que c'est encore une possibilité. Le verbe écouter, je voudrais simplement donner une définition toute simple, parce que je vais marquer le fait ce matin sur cette disposition, cette grâce que Dieu, ce privilège que Dieu nous a donné d'entendre. C'est important. C'est prêter l'oreille, alors c'est un mot assez particulier, prêter l'oreille, mais pour entendre. C'est donner audience à quelqu'un. Ouais, donner audience. Peut-être tout à fait cessante pour nous mettre, là, à l'écoute. C'est prêter attention. C'est pas écouter par une oreille et sortir de l'autre côté, c'est pas ça. C'est tenir compte de, tenir compte à quelque chose de particulier. C'est accueillir aussi. Ouais, nous avons la possibilité de refuser, hein, ça c'est clair. Ça veut dire également, peut-être, et là nous allons tomber dans le sens de notre lecture, c'est peut-être quelquefois céder. Écoute. Entends. C'est céder. Et quelquefois, il y a une mesure d'insistance. Vous savez, un enfant, quand il est, comme tous les enfants, ils peuvent être turbulents. Quelquefois, le papa et la maman, ils sont tellement à s'agiter de droite et de gauche, il prend par le bras et « Écoute !» Hein, ça vous est jamais arrivé, non? Peut-être. Enfin, voilà. Et puis, céder. C'est-à-dire que là, on fait entendre d'une manière tout à fait, peut-être péremptoire, de dire « Maintenant, ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est comme ça. » Et pour nous amener à une fin qui est dans, tout à fait dans la volonté de Dieu, dans le désir de Dieu, c'est d'obéir. Voilà, c'est d'obéir. Parce que nous sommes dans un monde qui est rempli de bruit. Ça, c'est vrai, il y a tout un brouhaha autour de nous. C'est, on pourrait dire, c'est un véritable tohu-bohu, enfin, sur le plan sonore. Et on est dans un monde où tout nous accapare quelque part. Alors, donc, il est peut-être bon de prendre en considération toutes ces choses. Il y a quelques pensées que j'aimerais, avant d'aller un peu plus loin, ça servira aussi d'introduction. Il y a un jeune enfant que Dieu appelle, il s'appelle Samuel. Vous connaissez l'histoire de Samuel, c'est une belle histoire d'ailleurs. Et dans 1 Samuel, chapitre tout simplement 3 et verset 9, Dieu appelle Samuel. Il appelle pour une affaire grave, pour une situation qui concerne finalement eh bien, le sacrificateur Élie. Et c'est par la voix, la bouche d'un enfant, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas. Mais toujours est-il que Dieu va interpeller Samuel et Samuel va nous donner véritablement une des raisons. Devant la gravité de la situation, il ne sait rien, Samuel, mais il a un message à donner. Et la réponse de Samuel, alors que Dieu est en train de l'interpeller, est en train de lui faire passer un message, eh bien, d'une manière très solennelle, Samuel dira « Parle parce que ton serviteur écoute ». C'est quelque chose de très beau, de la part d'un enfant. Peut-être que les enfants sont peut-être plus aptes à écouter que les grandes personnes. Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'était l'histoire de Samuel. Il y a également, je pourrais dire, le soupir plaintif de Dieu, quand Dieu va s'exprimer à un moment donné dans le psaume 81, et il dira comme avec une lassitude, comme une sorte d'épuisement, mais Dieu ne se fatigue pas naturellement, hein, mais par rapport à son peuple d'Israël, il dira ceci dans cette exclamation, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple m'écoutait, ça serait peut-être différent, ça serait peut-être un changement considérable. » Il y a à ces paroles l'écho qui est fait par le prophète Ésaïe au chapitre 55 que nous connaissons bien, et qui nous montre finalement la situation de ce soupir de Dieu où il voudrait bénir son peuple, mais son peuple n'est pas à même d'entendre. Et Ésaïe dira, écoutez-moi donc, enfin, Dieu dira par Ésaïe, écoutez-moi donc, et votre âme vivra. Ce qui veut dire que écouter la parole de Dieu, c'est vivre. Écouter la parole de Dieu, c'est la vie. C'est véritablement nous donner ce que nous avons exprimé, la joie, la paix, le bonheur, la tranquillité, le repos dans notre vie physique, dans notre vie morale, dans notre vie psychologique et également dans notre vie spirituelle. Eh oui, écoutez-moi et votre âme vivra. Le grand prédicateur que nous connaissons dans Matthieu 17, 5, du haut du ciel. Cette parole tombe vers les hommes par rapport à Israël. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et nous savons que nous avons toute cette plénitude de la parole de Dieu dans la personne de Jésus, puisque Jésus est le Verbe incarné. Il est venu pour parler, Jésus, et pour que les hommes écoutent. Il n'est pas tant venu pour écouter les hommes dans leur folie, mais aussi dans leur souffrance, parce qu'ils crient vers le ciel. Mais écoutez-le. Et puis, il y a également, parce qu'il y en avait énormément, j'étais obligé de faire une petite sélection dans cette introduction pour nous montrer l'importance de l'écoute, d'entendre, pas n'importe qui, pas n'importe quoi, mais d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Il est dit à un moment donné que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, mais prompt à écouter. Eh oui, c'est dans Jacques ça. Je voudrais poursuivre en vous disant qu'il existe trois dispositions chez l'auditeur. Alors peut-être que nous pouvons nous y reconnaître, mais je pense que vous êtes dans la bonne, me semble-t-il. par le fait même que vous donnez de l'importance à la prédication en venant dans les différentes réunions où il y a toujours des prédications. Même dans nos réunions de prière, nous marquons le fait aussi par cette parole, ne serait-ce que déjà pour nous inciter à prier. Il y a des fils conducteurs pour la prière à travers une brève prédication. Mais dans toutes nos réunions, c'est ça. Et je pense que tant que l'Église gardera cette conscience de cette haute vocation que la parole de Dieu doit présider à tous les rassemblements des chrétiens, c'est important aujourd'hui où on constate malheureusement que tout cela est remplacé par soit dans l'extrême religieux par des liturgies qui n'en finissent pas, ou alors à travers toutes sortes de manifestations d'une façon ou d'une autre, bien que toute chose ait sa place. Le chant, la louange, etc., etc., bien sûr. Bien sûr, je suis pas là pour... Mais quelquefois, il n'y a plus la parole de Dieu. Elle n'est plus présente. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu veut parler. Alors, dans ces trois dispositions, je voudrais d'abord vous parler de l'admiration positive. Enfin, on va l'appeler comme ça, l'admiration positive. Nous avons dans ce cas de figure, certainement un des plus beaux exemples évangéliques, c'est Marie aux pieds de Jésus. Elle laisse tout de côté aux grandes dames de sa sœur qui est là dans le fin fond de la cuisine en train de faire du bruit, etc., etc. Et elle se dit non, Jésus aujourd'hui est dans la maison, je me mets assise à ses pieds et j'écoute la parole. J'écoute la parole de Dieu. Ça, c'est Marie. C'est un bel exemple, hein. C'est quelque chose de formidable parce que je pense que ça nous attendrit toujours un petit peu de nous remémorer l'histoire de Marie qui écoute la parole de Dieu. D'ailleurs, elle ne sera pas désavouée par le Seigneur. Jésus dira à Marthe et à tout le monde, tous ceux qui sont dans la maison, mais elle a choisi la bonne part. Donc vous choisissez la bonne part lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Ça, c'est Marie, c'est son message. Et puis, il y a également l'admiration négative. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Admiration négative. Eh bien, une admiration qui est sans suite, hein, comme notre texte. Ils aiment écouter les paroles, la parole de Dieu. Ils aiment écouter Ézéchiel. Et puis, vous avez remarqué, par deux fois, il nous a dit, mais c'est bien, c'est formidable, mais il n'y a rien derrière. Parce que ils écoutent, ils applaudissent, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils entendent. Comme s'il y avait quelque chose là qui, eh bien, n'avait pas de sens, pas de but. Je relis le texte, une partie du texte. « Voici, dit Dieu, tu es pour eux, toi, mon prophète Ézéchiel, tu es pour eux comme un chanteur agréable. » Ah oui. « Tu possèdes une belle voix. » Ça, c'était les caractéristiques, les attributs de ce prophète. « Et tu es habile dans la musique. » C'est enthousiasmant. Et je pense que le monde est fait de tout. Le monde chrétien, il est fait de tout. Et je crois que tout cela, ça fait partie de la création que Dieu a donnée. Pour certains, eh bien, ils vont posséder, comme Ézéchiel, des particularités qui sont, moi, pour moi, eh bien, des talents que Dieu a donnés, naturellement. Et ça ne nuit pas, hein, dans une prédication. Ça ne nuit pas d'avoir une belle voix. Je voudrais pas dire, vous dire la mienne, hein, parce que dites donc, hein, surtout quand je suis enroué, ça m'arrive assez souvent en ce moment. Mais avec un accompagnement, peut-être, d'ailleurs, les psaumes, qui étaient la parole de Dieu aussi, étaient aussi joués, hein. On n'est pas l'habitude, hein. Peut-être que la prochaine prédication de Kader, il fera avec la guitare, peut-être. Hein? Comme ça, il y aura l'alliance des deux, hein? C'est possible. Hein? Alors, voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Et puis, il y a après, dans cette démonstration, cette explication de ces dispositions chez l'auditeur, il peut y avoir ensuite l'agacement. La parole de Dieu peut être une source d'agacement et voire même l'abjection, jusqu'à la violence la plus terrible, parce que lorsque nous regardons dans Michée, vous connaissez l'histoire du roi de Juda qui s'entretient avec Akab, parce que Akab avait des oreilles, mais bon, il en faisait ce qu'il voulait, hein. Et il y a cette situation donc de Josaphat, me semble-t-il, Josaphat, qui va s'unir pour partir en guerre avec Asa. Et on fait venir là le conseil de je ne sais pas combien de prophètes, mais ce sont des faux prophètes, qui se disent parler de la part de Dieu, mais c'est du mensonge. Et ils sont nombreux. Et en ce qui concerne le roi d'Israël, c'est-à-dire Akab, lui, il aime ces gens-là. Et vous savez pourquoi il les aime? Pour la bonne raison que ils disent toujours ce qu'il faut dire à Akab pour le séduire, pour en quelque sorte le subjuguer, pour aller dans son sens. Et là, il est heureux, Akab. Par contre, Josaphat, qui est un homme authentique, hein, un chrétien authentique, hein, roi de Juda, il va dire ces paroles à un moment donné. Je vais pas vous donner les références, mais vous pourrez les écouter, les réécouter de toute façon, quoi qu'il en soit. Il est dit ceci au moment de partir en guerre. Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400, imaginez-vous, hein, 400 conseillers, et puis en plus tous des faux, hein, ça c'est clair. Hein. Et ils ont tous répondu à Akab, « Tu peux monter maintenant, tu peux aller à la guerre, tu vas gagner, tu vas avoir la victoire. » Vous savez comment ça s'est terminé, hein? On le sait, ça, l'histoire. Hein? Mais la voix du mensonge, en se servant de la parole de Dieu, en l'enveloppant de la parole de Dieu, c'est Dieu qui a parlé. Mensonge. Et à un moment donné, le roi d'Israël répondit à Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Je ne l'aime pas, car il ne prophétise rien de bon. » La prophétie, la parole de Dieu, serait-elle pour nous donner que des choses qui nous plaisent? Il ne prophétise rien de bon, dira-t-il. Il ne prophétise que le mal. C'est Miché, fils de Jimla. Deuxième proposition. Eh bien, c'est justement, eh bien, on peut parler de la parole de Dieu qui suscite l'agacement, voire, eh bien, l'objection. Et puis, il y a aussi une troisième position, c'est la totale indifférence, c'est le désintérêt. J'entends, et ce que j'ai entendu, c'est comme si je ne l'avais pas entendu. Ça ne sert à rien. Nous sommes dans un monde où les gens entendent beaucoup de choses. Ils peuvent éventuellement, parfois, et peut-être qu'il y a une conduite de Dieu, entendre le témoignage des chrétiens. Entendre une interpellation du Seigneur, mais ça rentre par ici et ça sort par là, ça ne sert à rien. C'était la majorité du peuple d'Israël, finalement. Désintérêt, indifférence. Vous savez que lorsque nous lisons, et la parabole, elle est bien faite, elle est parfaite, me semble-t-il, quand on plonge les regards vers la parabole du semeur que Jésus va donner, parce que cette parabole du semeur réunit plusieurs états d'écoute. Chemin pierreux, il y a également le terrain rocailleux, il y a les épines et les ronces, et puis il y a naturellement, eh bien, la bonne écoute, on pourrait dire la bonne terre. Et c'est Jésus qui a donné, justement. Et toujours, parce que Jésus fait précéder quand il donne une parabole, écoutez ce que dit ceci ou cela. Il y a également une autre parabole que Jésus donnera, c'est dans l'évangile de Luc, me semble-t-il. C'est l'histoire des joueurs de flûte et de ceux qui chantent des complaintes. Pour bien montrer que Jésus, le Fils de Dieu, est venu, Fils de Dieu, Fils de l'homme, est venu pour apporter la parole de Dieu à travers un message de joie, de paix, de bonheur, parce que c'est la vie, et que Jean-Baptiste, qui l'a précédé, son précurseur, va apporter dans la préparation à la repentance un saisissement pour que les gens puissent véritablement se préparer à recevoir les Juifs pour leur Messie, ils vont chanter des complaintes. Et c'est une charade, en quelque sorte. Jésus dira, mais moi je vous ai apporté... Voilà, je vous ai apporté la parole de Dieu dans son aspect le plus joyeux, le plus heureux. Et vous dites que je suis un mangeur et un buveur, un ami des gens de mauvaise vie. Et Jean-Baptiste est venu, il vous a donné un message rigoureux, un message vigoureux, un message de profonde repentance, de sévérité. Et vous dites, il a un démon. Comment peut-on dire et comment peut-on évacuer la parole de Dieu en trouvant toujours des prétextes que ça n'intéresse pas les gens? Et aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Nous vivons dans un monde où les gens ne sont pas forcément, eh bien, enclins à écouter le message. Et ça, c'est quelque chose, donc, de préjudiciable. Non. Ce troisième cas dont nous venons de parler, c'est véritablement prendre la parole de Dieu au rabais. Vous voyez, c'est les soldes en ce moment, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas soldée, hein. Elle est comme elle est, c'est une parole de vérité. C'est une parole de franchise, c'est une parole qui nous met en face, finalement, de ce que nous sommes. Nous la recevons, nous ne la recevons pas. Abjection et allergique à la parole de Dieu. On peut l'être, naturellement. C'était la violence des pharisiens. Parce que ils ont été doucement au départ, mais ça montait en crescendo, jusqu'à, finalement, crier et faire crier la foule avec eux, « Crucifie, crucifie-le !» Parce qu'ils ne voulaient pas entendre la parole de Dieu. C'est aussi les habitants de Nazareth, pourtant ils le connaissaient, mais quand on connaît trop, finalement on est bourré de préjugés. Il y a des gens qui disent « Ah bah oui, mais... » Enfin, je ne sais pas, mais... Alain, qu'est-ce qu'il va nous dire encore ce matin? Il va nous dire toujours la même chose. Alors ça, ce sont des préjugés, parce que c'est la première fois que je prêche avec vous sur ce texte. Donc, ben voilà, mais bon, c'est pas un reproche, mais c'est une constatation peut-être de l'état de cœur. On vient parce qu'on vient, puis finalement on n'entend pas grand-chose parce qu'on ne veut pas entendre, et puis... Quelquefois c'est embarrassant, mais quand Dieu nous embarrasse, c'est pour nous débarrasser, mes frères et sœurs, de ce que nous sommes nous-mêmes. C'est pour nous débarrasser de nos scories, de nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, et que nous savons pertinemment, et que quelquefois nous avons des élans en disant « mais... j'aime ta parole, je voudrais aimer ta parole davantage, je voudrais être davantage libre par ta parole, qu'elle me libère, puisque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Mais il y a des résistances à l'intérieur de nous-mêmes, c'est quelquefois, eh bien... Et ça, c'était justement cette objection qui va très très loin, c'est la mort de Jésus, hein, par les pharisiens. Mais allergique, il y a des gens qui sont allergiques. Hein. On a vu parfois dans des amis qui viennent dans les réunions d'évangélisation, ils viennent, bon, ils regardent un petit peu ce qui se passe, voilà, il y a un peu de tous les côtés. Et puis, à partir du moment où on ouvre la parole, hein, deux ou trois mots, ça y repartent. Hein, ils sont allergiques. Hein. À moins qu'ils aient une urgence. Mais ils ne peuvent pas supporter. À la fois le contexte, à la fois l'ambiance dans nos réunions, parce que moi, je crois qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Hein. Et puis, il y a également la parole qui parle. Et ça les démonte. Ça les met dans une allergie, tout simplement. Et ça peut aller très loin jusqu'au meurtre. Écoutez, quand nous avons, dans l'apologie des hommes de foi, dans le livre des Hébreux, nous avons cette parole, parce que je pense qu'elle est peut-être à citer ce matin dans le nourrissage par la parole. Écoutez, dans Hébreux chapitre 11 et au verset 36, en parlant des hommes de foi, des hommes qui ont parlé sous l'inspiration de Dieu, vous savez que ça leur a coûté très cher. Hein. Il nous est dit, d'autres furent livrés au tourment pour avoir parlé, pour avoir annoncé la parole de Dieu. Et ils n'acceptaient point de délivrance afin de tenir une meilleure résurrection. La suite. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant sur la surface de la terre. Eh oui, c'est une drôle de vocation quand même de parler au nom de Dieu, pour le prédicateur, mais aussi pour votre témoignage. Quelquefois, il y a des retours cinglants. Hein. Ça fait souffrir. Et ça fait d'autant plus souffrir que lorsque les gens ne veulent pas entendre, et qu'ils vous insultent, qu'ils vous méprisent, qu'ils vous piétinent, qu'ils salissent le nom de chrétien que vous portez. Et combien ça nous fait du bien lorsque nous sommes en rencontre avec un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune fille, qui là se prête à entendre la parole de Dieu. Et on sent qu'il y a comme le visage est rayonnant de joie, hein, autant chez eux et autant celui qui parle. Vous voyez, quelle différence tout cela, quelle différence. L'admiration. On a parlé de Marie, la vraie admiration. Et on va parler maintenant du cas d'Ézéchiel. Et c'est une admiration. Mais pour qui? Pour qui est l'admiration du peuple juif? Le verset 32, nous l'avons lu. Tu es pour eux comme un chanteur agréable. Possédant une belle voix et habile dans la musique, ils écoutent tes paroles, naturellement. C'est un enthousiasme en Israël. Et il y avait des conditions qui faisaient que il était quelque part leader spirituel à cette époque. Notre prophète Ézéchiel. Mais quand vous regardez ce que nous avons lu, et je le relis à dessein, ils se rendent en fou. Dieu dira, mais attends, ne te méfie pas à ce que tu vois. Hein. Fais attention, parce que les applaudissements, les acclamations, et les alléluia, et puis tout ce que tu veux, fais attention, parce qu'il ne faut pas regarder à l'apparence, il faut regarder véritablement au fond des cœurs, et Dieu va le prévenir. Ils se rendent en foule, ils s'assient à tes pieds, ils écoutent tes paroles. Tu es un chanteur agréable, tu as une belle voix et tu les charmes par ta musique. Eh oui, ce que nous ne voyons pas, Dieu le voit, parce que le but de Dieu, c'est véritablement sa parole. et une parole qui fait du bien, une parole qui sauve. Et ils en avaient besoin d'être sauvés, là, hein, dans les circonstances. C'est le cas du jeune riche. J'ai mis beaucoup d'histoires, hein, ce matin, de beaucoup de références bibliques. C'est l'histoire du jeune riche, du jeune homme riche, et qui va venir, qui va véritablement faire un atterrissage auprès de Jésus sur ses genoux, et il va se prosterner devant Jésus en disant, Seigneur, j'ai quelque chose qui me dévore, j'ai quelque chose qui est terrible dans ma vie, et depuis ma jeunesse, je voudrais que tu me dises, mais comment hériter la vie éternelle? Ah, il avait faim, hein. Il était véritablement bouleversé, il était là dans des conditions qui, on pourrait dire, mais c'est l'homme véritablement qui est sauvé. Alors après avoir énoncé quelques principes, quelques petites choses, eh bien, quand Jésus va lui dire, écoute, hein, viens et suis-moi, et là il peut pas. La parole de Jésus qui l'a enthousiasmé, les paroles de Jésus, la personne de Jésus qui l'a enthousiasmé un temps, va le déconcerter, et là, il va vraiment être allergique. Non, c'est pas possible. Je peux pas laisser ma réputation pour te suivre. Surtout toi, hein. T'as pas forcément une bonne presse auprès de tout le monde. Je ne peux pas laisser ma fortune, je ne peux pas laisser ceci et cela. Et il va s'en aller tout triste. Et Jésus va en faire une application pour ses disciples à une question que Pierre va leur poser en disant, mais qui sera sauvé? Eh ben, Pierre va entendre et les autres vont entendre et nous allons entendre. Comment nous pouvons être sauvés? C'est en écoutant la parole de Dieu, en la vivant et en la mettant en pratique. Il y a le jeune homme riche, il y a les disciples déconcertés, superficiels, où ils sont déconcertés, les disciples de Jésus qui sont déconcertés parce qu'ils sont superficiels. C'est dans Jean chapitre 6, hein, où il est question du pain et du vin. Et Jésus va leur dire, mais si vous ne mangez le pain et si vous ne buvez le vin, si vous ne mangez mon corps et si vous ne buvez mon sang, eh bien c'est pas possible. Et là ils vont dire, mais cette parole est dure, hein. Mais on n'est pas des anthropophages. Eh oui, et ils vont le quitter. Et Jésus va dire à ses disciples qui restent, vous voulez les suivre? Parce qu'ils ont trouvé que cette parole était dure. Parce qu'ils n'avaient pas compris que la parole de Dieu, pour qu'elle soit bénéfique, qu'elle soit bonne, faut pas se positionner sur une interprétation légaliste, mais c'est dans l'esprit, parce que mes paroles sont vie et esprit, vérité et esprit, tout simplement. Quand on revient au contexte de ce récit qui a été écrit, que nous avons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel est le prophète de l'exil. Ils sont dans une situation qui ne sont pas faciles, les Juifs. Et Dieu parle tout simplement aux exilés pour les avertir. Et de quoi veut-il les avertir? De l'illusion charnelle de leur condition. Illusion charnelle de leur condition. Ils sont malheureux, ils sont esclaves dans ce pays étranger et ils se disent... Ça passera, et puis on sortira, et ceci et cela. C'est l'illusion du salut, comme beaucoup se l'imaginent, voire même d'une délivrance de Dieu, mais sans prendre conscience des conditions divines pour être sauvés ou pour être délivrés. Peut-être nous nous reportons sur nos propres vies en disant, mais Seigneur, je vis ceci, je vis cela, et ce n'est pas un message de culpabilité, hein, c'est pas ça. Mais de savoir écouter la parole de Dieu, et d'écouter comme elle doit être écoutée, c'est-à-dire avec... l'Esprit de Dieu qui va nous conduire. Parce qu'on se fait souvent des illusions. On pense que les choses vont ceci et cela. Et puis après on dit, mais Seigneur, tu m'as déçu. Mais non, c'est pas Dieu qui nous a déçus. C'est nous qui nous sommes déçus nous-mêmes. Parce que finalement, nous n'avons pas compris le message du Seigneur. Et c'était le problème, finalement, que rencontraient les Juifs en déportation au temps d'Ézéchiel. Aujourd'hui, c'est la même chose. Dans une façon ou d'une autre. Vous savez que Dieu ne se trompe pas. Hein. Quand il dit les choses, il les dit bien. Il est dit pour notre bonheur. Les particularités d'Ézéchiel, et moi je le crois, c'est qu'il avait reçu un don de Dieu. Ouais. Je crois qu'il y a des frères et des sœurs, et il y a beaucoup de frères et des sœurs. Tous les frères et les sœurs ont reçu des dons de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Et vous en avez. Et vous avez besoin, et nous avons besoin de demander à Dieu tous les jours qu'il nous donne, non pas pour nous enorgueillir, mais dans l'humilité de nous dire, mais donne-moi d'être ce à quoi tu m'as appelé à être dans ma vie. Et de ne pas arriver à la fin de mon temps, la fin de ma vie, sans avoir mis en pratique et vécu ce que tu m'as donné. Alors, pour les uns, ça sera d'une manière, pour les autres, ça sera d'une autre. Il y aura qui auront des dons pour le chant, pour la musique, pour visiter les malades, pour ceci et cela. Les prédicateurs, c'est souvent le don oratoire qui mais méfiez-vous, hein. Quelquefois, Nous avons des prédicateurs qui ont une voix, qui parlent d'une manière admirable. Je ne peux pas les sous-estimer, c'est pas ça, hein. Parce que souvent on écoute ces gens-là, on se dit, mais waouh, c'est extraordinaire, ça vient du ciel. Mais sachons écouter aussi quelquefois le prédicateur qui bafouille, celui qui hésite dans les mots, celui qui quelquefois a du mal à trouver son sujet et qui tourne en rond pendant je ne sais pas combien de temps. Ne les méprisons pas parce que ce sont des dons de Dieu. Et moi je dis qu'à ce moment-là, plus on est faible, plus on se sent faible et moins on a de capacité, plus Dieu va envoyer son esprit à un moment donné pour envoyer son message et donner son message. Surtout, ça c'est souvent là. Dans toutes les églises, hein, j'en ai fait quelques-unes, dans toutes les églises, c'est souvent cette propension chez les chrétiens de ne voir que l'apparence. Ceux qui parlent bien, ceux qui ont un talent oratoire, mais Dieu soit béni parce qu'ils font du travail, etc., etc. Mais à côté, n'allons pas mépriser celui qui, quelque part, a du mal à trouver ses mots, qui quelquefois a du mal à rassembler ses pensées, parce que là, quelquefois, Dieu peut nous donner des leçons magistrales et des messages qui vont marquer notre vie par ces gens-là. Et c'est vrai, et je voudrais le dire pour vous encourager, nous sommes toute une équipe de prédicateurs ici dans ces trois églises. Mais une chose qui est certaine, n'allez pas surestimer le pasteur parce qu'il est responsable des églises et sous-estimer les frères anciens. Nous, nous prions pour que les frères anciens soient bénis et que par la bénédiction qu'ils reçoivent de Dieu, vous puissiez être bénis autant qu'avec le pasteur principal. Je suis ferme par rapport à ça. Priez pour nos frères. Parce que quelquefois on a des surprises. Hein. Bah, on en a vu, hein, quelquefois. Ah, c'est le prédicateur, mais c'est pas le pasteur, etc. Vous vous trompez, frères et sœurs. Parce que il y a des choses qui passent. Et moi, je les encourage, mes frères qui prêchent. Parce qu'ils peuvent être saisis tout autant comme un serviteur de Dieu, un ministère don, si vous voulez. Un ministère don, tout autant pour apporter un message de salut, un message d'édification. Parce que l'Esprit de Dieu passe à travers eux. Et le problème, c'est ça. Il avait reçu un don de Dieu. Sa façon de parler chez Ézéchiel était frappante. Elle était vivante. Elle était pleine d'images, probablement laissant les auditeurs sous le charme. Quand Ézéchiel parlait, enfin, excusez-moi pour la mimique. Je tressaille. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Sous le charme. C'est le mot, hein. De ce qu'ils entendaient, parce que c'était Ézéchiel. Ah, ils le bichonnaient, leur petit prophète, là-bas. Hein. Eh oui, à défaut d'être en Israël, ils étaient en esclavage. Mais Dieu leur avait fait l'accompagnement d'un prophète. Écoutez Ézéchiel, devenez pour les exilés, à la limite, un passe-temps, un délassement, une attraction, et nullement un moyen de réflexion profond, de remise en cause, conduisant à la repentance. Eh oui. Le monde est plein de gens qui ont du talent. Il y a l'opéra. Il y a le chanteur populaire. Il y a toutes sortes de choses. Et c'est vrai que notre âme, parce que nous sommes des hommes, quelquefois est sensible à ceci ou cela, etc., etc. Bon, ça fait partie de la vie, des choses comme ça. Mais pour nous, je crois que ne faisons pas de distinguo entre les hommes. Ne faisons pas de « moi j'ai mes préférences », mais on va en parler d'ici quelques instants. Hein. Vous voyez ce que je pense. La parole de Dieu n'a aucune influence sérieuse, tout simplement, sur leur disposition morale. Tu es pour eux simplement, Ézéchiel, eh bien un habile chanteur. Tu es un musicien hors pair, tu as des talents extraordinaires, tu parles bien, tu as une voix magnifique, et les gens aiment ça. C'est bien dommage, parce que Dieu peut parler tout autrement. Voilà tout le danger de vouloir rechercher, d'entendre des choses agréables. Oh, l'apôtre Paul. Moi, Paul, il me fait penser à Moïse, parce que les deux ont dit qu'ils n'avaient pas forcément la facilité de parler. En tous les cas, il y a une chose que Paul avait, c'est la facilité d'écrire. Ça, c'est clair. 13 épîtres à lui tout seul, c'est déjà pas mal. Et nous voyons par exemple dans 2 Timothée, parce que ça c'est aussi la démonstration de notre temps, hein, et parmi, dans nos églises, écoutez bien, car il viendra des temps où les hommes, où les chrétiens, eh oui, peut-être même les serviteurs de Dieu, ça c'est plus grave, ne supporteront plus la sainte doctrine. La sainte doctrine c'est la parole de Dieu. Mais ayant la démonstration d'entendre des choses agréables, eh oui, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, des faux prophètes. des gens qui sont en train de trafiquer la parole de Dieu. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et nous en sommes là dans notre christianisme occidental. On en est là, malheureusement. Je veux pas dire partout. Béni soit le Seigneur de nous donner encore des églises où les prédicateurs, où l'encadrement des prédicateurs, où les églises tiennent encore à la parole de Dieu, mais dans l'inspiration qu'elle nous est donnée par le Saint-Esprit et sur ces textes de l'Évangile. Eh oui, démangeaisons entendent des choses agréables. De plus en plus, et je pense que les médias sont en train d'exploiter à fond, le monde aime le scénique. Eh oui. Le scénique, c'est ça, là, vous voyez? Vous voyez un peu le décor derrière? Bien, hein? Vous osez pas dire que c'est très beau, hein? Voilà. Le scénique. Le théâtral. Les grandes envolées, les effets de manche et tout ce que vous voudrez, hein? Eh oui. Ça, c'est quelque chose. Le m'as-tu vu? Là, j'ai peut-être dit des choses qu'il fallait pas. Le m'as-tu vu? Ouais. Le show. En anglais. Bah oui. Et on essaie de gagner des âmes, on essaie de déployer tout et n'importe quoi pour essayer de toucher le sentiment, l'affect des gens. Mais c'est la conscience et l'esprit qui touchent. Et c'est pas parce qu'on va faire des grandes démonstrations, etc., etc., avec toutes sortes de choses, que les gens vont se convertir. Les gens sont dans le monde et ils vont trouver dans l'église exactement la même chose. Non, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qu'il faut prêcher. Il ne faut pas se prêcher avec un nom. Moi, je suis le prédicateur, je suis l'orateur de ceci et cela. Ça n'a rien à voir, parce qu'on est en train de dériver, parce que le principal, c'est pas le messager, le principal, c'est le message. Et nous ne sommes rien. Et nous ne sommes rien, moi j'en suis tout à fait conscient. Parce qu'il faut faire attention dans les temps dans lesquels nous sommes, parce que nous sommes tellement collés à la réalité du monde d'aujourd'hui. Parce que c'est comme ça. En rappelant ce que Jésus nous dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal qui est dans le monde. Alors attention de ne pas mélanger, de ne pas exploiter l'émulation, l'engouement, le charnel et le sentimental, et faire du prédicateur une idole. Tu es pour eux comme un habile chanteur. Ouais. Et là, c'est complètement renverser les choses. Ce que nous donnons aux prédicateurs, nous le volons à Dieu. Tout simplement. Et ça peut être très préjudiciable, et qui a été consigné par l'apôtre Paul à un moment donné. Ah, vous dites que tu es de Paul, toi tu es de Céphas, toi tu es d'Apollos, etc., etc. Comme si, finalement, ils n'étaient que des hommes, et vous en avez fait des idoles. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des divisions dans les églises. Alors nous sommes peut-être dans les temps où vous allez changer de pasteur. Ah, je vous dis pas ça comme ça. Parce que ça arrivera un jour ou l'autre, hein. J'ai pas encore la barbe blanche, mais enfin bon, ça va venir. Parce qu'il faudra. Ça faudra. Et moi, je pense qu'il faut absolument que vous puissiez vous préparer à la passation. On a fait un bout de chemin ensemble, ça fait 12 ans, peut-être que je vais rester encore 3 ans de plus, hein, c'est possible, parce que j'ai pas le choix. Mais toujours est-il qu'il faudra vous préparer qu'il y ait un frère qui sera pasteur et président de cette église, et puis bon, nous, on va disparaître, c'est normal. Nous, on a fait notre temps, hein, depuis l'âge de 20 ans, c'est déjà pas mal. Hein. Mais il faut se préparer de voir dans l'homme, et surtout qu'il faut prier aujourd'hui, que Dieu vous donne l'homme qui sera vraiment choisi par Dieu. Et là, maintenant, c'est vrai que comme vous m'avez accueilli, moi je dis un peu comme Paul, hein, il y a 12 ans en arrière, ça va faire 12 ans vendredi prochain. Et une chose qui est certaine, c'est que quand je me suis présenté à vous, je suis pas venu comme un champion, hein. Je tenais pas debout, hein. Malade pendant des mois et des mois. Et je pourrais dire comme Paul, mais vous ne m'avez pas jeté la pierre, vous m'avez accueilli avec amour et compassion. Ça, c'est mon histoire. Et vous le savez. Enfin, nous, on s'en est vraiment aperçu, hein. Parce que les frères anciens, quand ils nous ont accueillis, ne serait-ce que pour mon déménagement, ils se sont dit, mais il va mourir à Saint-Nazaire. Hein. Mais quand Dieu veut que nous vivons, hein. Et je suis content d'être avec vous, hein. Avec mon épouse, on est content. Mais il faut passer maintenant à la suite. Et il faudra se préparer, il faut prier pour que Dieu vous donne un homme, un couple pastoral qui soit vraiment choisi. C'est pour ça qu'on ne se presse pas, parce qu'il faut que ce soit l'homme de la situation. Autrement, il peut y avoir des pleurs et des grincements de dents, hein. Et Je pense qu'il ne faut pas mettre votre confiance dans l'homme. Un prédicateur viendra, un pasteur viendra, quel qu'il soit, mais selon le plan